on suppose qu'au moment du néolithique, avec la domestication des animaux, un certain nombre de virus ou de bactéries sont passés des animaux à l'homme, en particulier la rougeole. Si on saute à la période historique, un des premiers grands récits d'épidémie, c'est le récit de Thucydide de la peste d'Athènes qui a été écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est une peste d'origine humaine. On sait simplement qu'elle a été facilitée par le fait que le Péloponnèse était en guerre, Athènes était en guerre comme d'habitude avec Sparte. Donc on peut supposer que la population était considérablement affaiblie, à la fois moralement et physiquement, par l'état de guerre. On dit par exemple que Avicenne, l'auteur persan du 11e siècle après Jésus-Christ cette fois, a mentionné le fait qu'il y avait des rats au moment des épidémies qui étaient malades. C'est vraiment une notation très fugitive, mais qui permet de rapprocher la peste des rats qui sont le réservoir.
Quelles étaient par le passé les méthodes de lutte contre les épidémies ?
Alors ça, l'Italie est au premier plan dans cette lutte, puisque l'Italie et la Méditerranée, surtout Venise, avec son lazaret instauré au 15e siècle dans une île, Venise étant en rapport commercial intense avec l'Orient, s'est préservée presque la première, après peut-être Raguse, l'actuelle Dubrovnik, en créant une prison sur une île, de façon que tous les bateaux qui arrivent avec des marchandises et des marins venant d'ailleurs, en particulier de l'Orient évidemment, soient quarantainés pendant un certain temps pour éviter qu'ils transmettent le mal dont ils sont porteurs. En fait, la Méditerranée, bien avant bien sûr les vaccins, s'est ornée de lazarets, dont certains existent encore, qui représentent des superbes architectures pour les touristes, et qui permettait de filtrer les bateaux qui étaient suspects. Il y avait tout un système. Un bateau quittait un port de l'Orient, il devait avoir un passeport sanitaire, qui était signé par le consul local, souvent un médecin d'ailleurs. Et ce passeport correspondait à ce qu'on appelle une patente nette, c'est dans les mots italiens qui sont utilisés, brutta ou netta. Brutta, ça veut dire qu'il y a une suspicion, et à ce moment-là, le capitaine de son équipage et les marchandises étaient enfermés dans le lazaret, ou netta. Et à ce moment-là, ils pouvaient circuler librement.
Quelle a été l'épidémie la plus dévastatrice de l'histoire ?
On peut évidemment parler de la peste. On sait beaucoup de choses sur la peste à la Renaissance, au Moyen-Âge et à la Renaissance en Italie, parce que les conseils de santé étaient très bien organisés, et c'est admirable de voir à quel point les corbeaux, en particulier, le mot qui est employé pour les hommes qui s'occupaient à la fois des cas de peste et puis de l'enlèvement des cadavres, allaient de maison en maison et prenaient des notes. Et donc on sait assez bien, on a une idée approximative. Dans certaines villes, par exemple Orvieto en Italie, c'est le tiers de la population qui est mort.
Historiquement, est-ce qu'on peut dire que chaque épidémie marque un temps de bascule de l'époque, de changement radical ?
Vous savez que la plupart du temps, les religieux considèrent, mais pas seulement eux, aussi les populations, considèrent que c'est la punition de Dieu. Donc chaque fois qu'il y a une épidémie, les prédicateurs appellent à la conversion des pécheurs, appellent à la repentance et considèrent que la fin de l'épidémie marque un répit donné par Dieu pour pouvoir se convertir littéralement. La façon dont l'épidémie est vécue est souvent entraîne un regain de religion et en particulier la création d'ordres religieux qui vont maintenir ce mouvement. Il y a bien sûr de multiples contre-coups. Par exemple, la peste médiévale aurait joué un très grand rôle, paradoxalement, dans l'amélioration du sort de la paysannerie. Le fait qu'il y a une mortalité épouvantable dans les épidémies fait que, au sortir de l'épidémie, il y a une sorte de vide salutaire, le travail devient indispensable et les paysans peuvent exiger des salaires plus élevés. Il se crée aussi une bourgeoisie, une moyenne bourgeoisie, qui prend la place des anciens aristocrates.
Et alors en quoi cette pandémie actuelle que nous traversons est-elle unique dans l'histoire ?
Nous disposons d'outils d'analyse qui nous permettent d'identifier un virus qui autrement serait passé complètement inaperçu. Autrefois, nous avons des méthodes de prélèvement, d'analyse génétique qui font que grâce d'ailleurs à l'initiative chinoise, nous avons disposé du virus et de sa séquence génétique complète très très rapidement après que les premiers cas aient été officialisés en Chine. On peut d'ores et déjà prédire d'autres épidémies. C'est pour ça qu'il faut être patient, parce que ça ne sera certainement pas la dernière épidémie. Nous aurons d'autres épidémies qui sont en relation à la fois avec l'amélioration de nos moyens techniques et des connaissances médicales, mais aussi malheureusement avec les transformations extrêmement rapides du paysage, avec les désastres écologiques que vous connaissez, avec l'urbanisation massive et les transports qu'il paraît difficile d'immobiliser pour un certain temps. Aucune épidémie n'est assimilable à aucune autre. Il y a toujours des circonstances particulières, ce qui fait que tout à la fois, on peut raisonner sur ce qui s'est passé, mais en même temps, chaque épidémie survient dans un contexte particulier, qui fait qu'elle ne se reproduira jamais à l'identique. On voit par exemple les coronavirus, il y a de grosses différences entre l'épidémie qui a frappé l'Arabie Saoudite et le Golfe, et celle de Chine, le SRAS, et puis notre épidémie actuelle.